Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Quel est l'avenir de notre Terre? Quel est l'avenir de l'humanité? Même si on a un tempérament porté à l'optimisme, on peut s'inquiéter au vu des recherches, des réflexions et des conclusions de nombreux scientifiques qui se penchent sur ces questions. Yves Cochet, par exemple, mathématicien, ex-député européen, ancien ministre de l'écologie, annonce face au réchauffement climatique et à l'épuisement des ressources, la disparition des espèces. Pour lui, il se réclame de la collapsologie, c'est-à-dire, je vous le dis, ma science est récente, une approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation et en envisage les risques, les causes et les conséquences. Donc, cet homme dit qu'il faut s'y préparer. En 2500, la Terre sera devenue hostile aux humains. Comment mieux comprendre ce danger? Eh bien, en rejoignant une planète lointaine qui a vécu ce processus de destruction il y a fort longtemps et dont les habitants, êtres supérieurement intelligents et aux technologies très avancées, ont disparu, laissant la place à des robots. C'est dans cette aventure que nous entraîne Henri Reiche, dans un roman plein d'imagination, d'anticipation bien sûr, mais aussi très au fait des voyages interplanétaires, des capacités de la robotique, des nouvelles technologies. Ce roman s'intitule « Notre monde vient d'en trouver un autre ». Il est édité par LibriNova. Henri Reiche, bonjour.
Bonjour.
Voilà, le titre de votre roman « Notre monde vient d'en trouver un autre » rappellera à certains, ceux qui l'aiment, et à raison, les essais de notre inestimable Henri de Michel de Montaigne.
Oui.
Voilà, alors dont un chapitre s'intitule « Des coches ». Et là, il est très sévère à l'égard de l'ancien monde et des Européens, entre autres, parce qu'au XVIe siècle, il est très sévère, à juste titre, quand nous sommes allés investir le nouveau monde avec les suites que l'on connaît quand même. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est drôle, vous ne l'avez pas mentionné, je ne crois pas, mais cette phrase se termine d'ailleurs par « Cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira ».
Oui, d'abord, merci infiniment Monique Fauché de me recevoir à nouveau pour parler de ce livre, Le monde vient d'en trouver un autre. Alors, au départ, lorsque j'ai rédigé ce manuscrit, c'était pas le titre que j'avais choisi. J'ai trouvé ce titre en faisant travailler le bac de français à mon petit-fils, les essais de Montaigne. J'ai dit, ouh, ça pourrait aller.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai que dans cet essai qui s'intitule « Des coches », qui commence à parler des moyens de transport et du mal de mer, tout d'un coup, il y a une digression. Notre monde vient d'en trouver un autre et il parle de Cortés, des atrocités infligées par les colons aux Amérindiens. Et donc, j'ai dit, bon, mais c'est un bon titre pour mon livre, puisqu'on va découvrir un nouveau monde, une nouvelle planète. Et en fait, ce texte, il est utilisé cette phrase est utilisée dans le texte, mais dans la bouche d'un robot.
Voilà.
Qui dit « Notre monde vient d'en trouver un autre ».
Oui. Ah, on va en parler. Êtes-vous vous-même préoccupé par l'avenir de notre Terre et de l'humanité, d'ailleurs ?
Bien évidemment, tout observateur se rend compte que notre monde est en difficulté, que notre planète se réchauffe, que les espèces disparaissent, que probablement notre espèce, qui est très envahissante, qui a occupé la Terre entière, qui pollue les mers, est un vrai danger pour une Terre qui n'est peut-être pas capable de métaboliser, si je puis dire, tous les déchets que nous rejetons sur elle. Et donc, la Terre est réellement en danger.
Je ne sais pas quel est l'écrivain. Je pense à Victor Hugo, moi j'en suis pas sûr, qui disait qu'il y a deux prédateurs sur Terre, l'homme et le rat.
Je sais pas. En tout cas, l'homme, oui.
C'est un roman d'imagination, certes, mais aussi vous vous référez aux recherches scientifiques et dans de nombreux domaines, parce que ce soit la climatologie, la météorologie, l'économie même, la géopolitique, bien sûr. celle qui fait notre actualité quotidienne.
Oui.
Oui, la géopolitique, je pensais oui. à ça, parce que vous faites, on va parler des personnages mm-hmm. que vous avez créés, et en particulier certains qui vont se retrouver dans une situation terrible et que l'on connaît. On en parle moins bizarrement d'autres, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais on parle moins de ceux qui traversent la Méditerranée, mm-hmm. et pourtant ils continuent à exister très certainement.
Oui. Alors, bon, ce roman a été écrit avant l'invasion de l'Ukraine récente, l'invasion récente de l'Ukraine, à un moment où la guerre atomique n'était pas envisagée. Enfin, on disait ça n'arrivera jamais. Or, on se rend compte que c'est pas impossible. Et alors,
vous ne trouvez pas que c'est curieux qu'on n'ait jamais pensé que ça pourrait être possible?
Ben oui, si. Enfin, moi, je pense que c'était curieux. Oui. Et dans mon roman, vous avez oui. vu que, aussi bien dans le roman 1984, il y a une guerre atomique, oui. mais à la suite de cette guerre, il y a quatre entités géographiques qui persistent, qui perdurent. Et qui se font la guerre. Dans mon roman, ces gens-là ont été assez sages pour se dire on va ne faire qu'une seule entité, on va abolir l'usage des armes et on va utiliser une seule langue pour bien se comprendre.
On va y arriver. Alors, on est en août 2011. Que se passe-t-il?
Alors, en août 2017. En août 2017, il y a un naufrage qui se produit en mer Méditerranée d'une embarcation qui transporte des migrants. Il en arrive souvent des naufrages de migrants et je me suis inspiré d'un reportage qui avait eu lieu dans un journal qui relatait un naufrage. Alors bon, là j'ai beaucoup inventé évidemment, mais au cours de ce naufrage, beaucoup de migrants disparaissent, noyés, et on verra ce qu'il arrive de certains d'entre eux. Mmh. Et puis à un autre bout de la terre,
alors ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux
le
premiers
même jour.
Le même jour, et les deux premiers que vous venez d'évoquer sont poussés par la misère à prendre la mer.
Tout
tandis que les deux autres, c'est très différent.
Les deux autres, c'est pour leur agrément.
Navigation de plaisance.
Voilà. Ouais. Un qui traverse l'Atlantique pour convoyer un catamaran de France aux Antilles. Et puis une Américaine qui va faire un stage de plongée sous-marine aux îles Vierges. Ces deux sont pris dans l'ouragan Irma qui a détruit une partie des Antilles. Et donc, ces quatre personnages se retrouvent dans un vaisseau spatial.
Oui, alors vous maintenez le suspense, parce que le chapitre se termine, on se dit, bon, ben, ils disparaissent, ils se noient.
Oui.
Ils se noient pour... Et coup de théâtre, le chapitre suivant, ils sont là, et ils se retrouvent dans un vaisseau spatial.
Voilà. Alors, le narrateur, qui est un des quatre personnages, qui est un jeune médecin, se réveille dans un espace très réduit, capitonné. On comprendra pourquoi il est capitonné, parce que ces robots ont récupéré des êtres animés dont ils ne savaient pas s'ils étaient violents ou pas. Donc... Il se retrouve là, il se dit « Est-ce que je suis dans mon cercueil ?»
Oui.
Et donc, mais comme il a mal au bras, il se dit « Non, je suis souffrant, donc je suis vivant. »
Voilà. Et alors, voilà, c'est... Alors, donc, ils sont une sorte de vestibule. C'est assez étroit dans un premier temps. Notre étage est la cabine de pilotage où nous devons nous tenir alignés, presque au contact les uns des autres. C'est Borotine. Alors, apparemment, Borotine est le... est le capitaine de ce vaisseau spatial qui nous y conduit. Notre capitaine nous distribue en même temps des casques audio sur chacun desquels nos noms respectifs sont affichés. Il nous indique qu'ils permettent une traduction en temps réel de nos propos en anglais, ce qui existe. Français en bambara et en tigrigna. Alors là, c'est le, en bambara, c'est en Érythrée, je crois.
Non, le bambara, c'est au Mali.
Mali. Et en tigrigna, c'est
en Érythrée.
D'accord. Entre nous, soit en anglais, le plus souvent, soit en français, entre Moussa et moi, puisque Moussa est africain et qui parle de langue française. Voilà le premier contact. Ils vont vers une planète lointaine. Quelle est cette planète que vous avez créée, mais qui...
Alors,
il en existe.
Ouais, bien évidemment, on découvre très souvent, je dirais presque tous les jours. La chercheuse du MIT dit tous les jours, on trouve des exoplanètes dont certaines pourraient abriter la vie. Alors, la question est de savoir si, lorsque les conditions de la vie existent, l'eau, l'oxygène, la vie va exister ou si c'est une probabilité faible. J'ai pris le parti que, dans cette planète, les conditions étant réunies, la vie a existé, s'est développée, a créé des êtres supérieurs, très intelligents, et ces êtres ont conçu des robots. Donc... Mes quatre passagers du vaisseau découvrent les trois personnages les trois robots qui pilotent ce vaisseau et découvrent en même temps et découvrent au travers de leur discussion avec eux et d'images vidéo la vie sur la planète vers laquelle ils vont arriver. Alors
oui, alors on est étonné parce que les robots qui sont dans le vaisseau spatial sont des êtres pensants. Bon, mais effectivement, ça existe. Et sensible, oui, très bienveillant. Très bienveillant. Je me suis demandé s'ils n'étaient pas d'origine japonaise, parce qu'ils sont très au fait maintenant, les robots.
Oui, on en voit qui se promènent, oui. Qui courent partout.
Dans les restaurants même.
Oui.
Voilà. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va apprendre ce qui s'est passé au moment de leur création.
Oui.
Alors
au tout début, les robots ont été créés pour aider les personnes âgées dans les tâches ménagères.
Ce qui existe déjà.
Oui. Mais ces robots n'avaient pas véritablement de conscience, donc ils calquaient un peu. Ces robots, comme on le sait maintenant, de l'intelligence artificielle, de Google, de Facebook, en magasinant des informations, apprennent. Donc ils apprenaient, sauf qu'ils apprenaient ils calquaient leur comportement sur ceux des personnes qu'ils avaient à aider.
Ils ne triaient pas.
Et donc
parfois
ça se passait pas bien. Donc
ouais.
lorsque les personnes âgées étaient agressives, ils devenaient agressives.
Ouais. Ouais.
Et on les a perfectionnés, ces robots, pour les rendre sensibles, pour faire en sorte qu'ils acquièrent les bonnes réponses, oui, et que quand ils prennent une décision, elle soit animée par le désir à la fois de réussir ce qu'ils ont à faire, mais aussi de ne pas nuire à leur environnement.
Oui.
Et aussi, bon, on leur a inculqué les sentiments de justice, l'empathie,
Oui, la stimulation de leur centre de plaisir aussi.
Oui,
vous
aussi,
dites, hein?
aussi.
Oui, voilà, et l'empathie, oui, ils se mettent à travailler tant et si bien qu'ils firent des découvertes considérables. L'une d'entre elles a concerné l'astrophysique. Elle consista à découvrir les mécanismes à utiliser pour accélérer un objet en appuyant sur les forces gravitationnelles, pardon. Donc, on apprend qu'en définitive, le champ d'apprentissage est infini.
Alors, ces robots, ils ont un avantage par rapport aux êtres biologiques. C'est qu'ils peuvent aller sur les lunes, entre guillemets, de cette planète. Et comme ils n'ont pas besoin de respirer, ils peuvent parfaitement vivre dans ces conditions...
À condition qu'il ne pleuve pas.
Oui, mais et alors sur les exoplanètes, ils font des découvertes qui agacent un peu les êtres qui leur ont donné naissance. Et à un moment, il y a une sorte de conflit entre les robots qui voudraient publier dans les revues scientifiques leurs résultats, et puis les êtres biologiques qui ne les considèrent pas comme des êtres à part entière.
Oui, il y a une rivalité.
Il y a une rivalité.
Oui, une rivalité. Alors, ils sont évidemment, en plus, ils sont immortels. Mmh. Ils n'ont pas besoin de manger. Ils ne meurent pas, puisque je suis immortel. Ils sont non-violents. Alors, vous dites qu'ils ont des sentiments, des émotions, mais là, effectivement, on le voit. Et à un moment donné, est-ce que c'est dans votre ouvrage que quelqu'un dit « c'est quoi le nombril ?» Mais c'est le souvenir de maman, on n'a pas ça.
Non.
Je sais pas.
Il y a probablement des références voisines, mais pas le nombril. Non.
Voilà, alors donc, eux sont assez... En même temps, ils ont quand même, justement, c'est troublant parce qu'on se dit « ça, c'est sans doute l'avenir ». Ils sont intéressés par la poésie, par la musique, par l'amour même, ils en parlent.
Oui.
Oui. Alors, donc, qu'est-ce qui leur manquera finalement ?
Alors, ce qui semble leur manquer, que découvrent nos passagers du vaisseau, c'est la relation avec des êtres biologiques. Alors, on apprend au cours du voyage que ces êtres biologiques qui leur ont donné naissance ont disparu. Dans des circonstances qui rappellent ce qui pourrait arriver à la Terre, hein, avec des phénomènes météorologiques graves. Et puis, finalement, on apprend, mais je ne sais pas s'il faut le dire
non.
Là, ils sont morts.
Oui,
on apprend
voilà.
De quoi
oui,
ils
oui,
sont morts.
Oui, oui, mais justement, c'est ça, c'est que le regard que nous avons peut nous faire, peut nous permettre d'imaginer ce qui peut nous attendre.
Tout à fait.
En fait, on peut se projeter. Alors, je reviens à la poésie. Ils ont une manière de parler. La poésie, c'est l'aventure des mots, leur façon de prendre l'air, de voler sur l'aile des oiseaux, de se moquer des phrases, de se déguiser. Notre vie serait trop triste si nous n'y mettions pas un peu de poésie, nous explique Borotine. Certains d'entre nous ont beaucoup lu et réservé des œuvres artistiques. Alors oui, enfin bon, etc. Ils sont, voilà,
ils sont un peu poètes aussi.
Ils ont besoin d'autre chose,
oui,
finalement.
Oui, oui, oui.
Et la musique, pareil, ça permet d'être dans les émotions. L'amour, c'est, je crois, pas inventé, c'est le cœur qui crépite. Bon, il y a des tas de choses qui cherchent à les rapprocher. Alors, est-ce que ça, c'est une construction ? Parce que vous dites à un moment donné qu'ils ont une mémoire épigénique, c'est-à-dire très proche de la nôtre.
Alors, ils ont ce que Antonio Damasio a qualifié d'inconscient génomique. En fait, il y a tout un tas de comportements qui ne sont pas conscients. On ne réfléchit pas pour respirer. Le cœur s'accélère lorsqu'on fait un effort. Lorsqu'on manque de sucre, on a faim. Lorsqu'on est déshydraté, un petit peu déshydraté, on a soif. Tout ça, c'est inconscient. C'est inconscient génomique. Ce sont nos gènes qui sont organisés comme ça. Et eux aussi. Alors, on pense que l'empathie, le sentiment de justice sont des éléments qui sont acquis génétiquement au cours des âges, nos ancêtres...
Génétiquement ?
Oui.
Ah oui ?
Oui.
C'est pas, y a pas une part d'éducation, là ?
Enfin,
entre, oui. C'est l'éternel enfin, problème moi, entre l'inné et l'acquis.
Oui, mais nos ancêtres qui vivaient dans la savane africaine devaient de l'empathie pour rester dans leur groupe.
Oui.
Ceux qui s'éloignaient, qui avaient des comportements agressifs à l'égard du groupe, qui n'avaient pas d'empathie pour les enfants ou pour leur congénère, étaient rejetés. Donc, ils avaient peu de chances d'avoir des enfants. Enfin, C'est le darwinisme, oui, on a sélectionné.
Oui, on a sélectionné.
Et ça n'existe pas que chez l'humain. Hein, l'empathie, ça existe chez les primates, ça existe chez les éléphants, les loups.
La mémoire des éléphants, oui, on en parle. Oui. Et puis, par rapport à la mort, les éléphants sont assez surprenants. Donc, ça signifierait que donc, on arriverait, vous pensez que c'est possible, à programmer finalement tous ces sentiments qui les rapprocheraient.
Alors, c'est une question. Dernier ouvrage, Yuval Noah Harari dit l'intelligence artificielle. Il faut distinguer l'intelligence et la conscience. Ouais. Et l'intelligence, on y arrive très facilement. La conscience, on ne sait pas. Alors, il dit qu'il y a des gens qui sont confiants pour accorder des sentiments aux robots. Il faut savoir quand même que l'informatique que nous connaissons, c'est pas si vieux que ça. Ça a 60 ans.
Oui, c'est vrai. On est au béaba, quasiment.
Et imaginons 3000 ans de plus.
On va
en découvrir des choses. Là, déjà, on sait faire marcher des robots qui sautent partout. On a fait des ordinateurs qui savent battre Kasparov aux échecs.
Le premier ordinateur à Rangueil était énorme.
Oui, je me souviens.
Était énorme. Oui, maintenant, nous avons tous.
Dans ce film, les femmes de l'ombre, il y a trois afro-américaines mathématiciennes qui sont recrutées par la NASA pour faire le calcul d'ogive des missions Apollo. Et on voit dans le film apparaître à un moment un énorme ordinateur dans une très grande salle. Et elles vont s'approprier cet ordinateur, mais ça n'existait pas. À la fin des années 70, les ordinateurs étaient balbutiants, même pour des missions, des calculs de trajectoire compliqués.
Ouais.
Donc, ça a 60 ans.
C'est très récent.
Imaginez dans 3000 ans.
Alors, on va imaginer pendant une courte pause musicale. Alors, je vous propose la musique de l'univers. Écoutez, et ça, c'est Christophe qui va nous faire écouter.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Alors, je suis en compagnie d'Henri Reich et nous sommes en train de chercher pour vous, chers auditeurs, une lecture, mais toutes les lectures sont passionnantes là, donc on se posait la question. On va en parler, Henri Reich, nous en parlerons. Il s'agit donc de l'ouvrage intitulé « Notre monde vient d'en trouver un autre ». Il s'agit de la rencontre d'êtres humains et de robots. De robots qui se trouvent sur une exoplanète. Oui, au fait, Henri Reich, cette planète se trouve à combien d'années-lumière de la Terre ?
Une dizaine d'années-lumière.
C'est-à-dire que si on veut y aller, on va passer combien de temps dans notre, notre confortable fusée ?
Alors, bon, j'ai un peu triché sur la compression du temps en utilisant les lois les lois de la gravitation.
Oui.
Donc, on le fait, le voyage s'opère en un an.
Oui.
En un an.
Mais oui, là, il faut le dire à nos auditeurs, pour l'instant, la plus proche des exoplanètes que l'on connaît, qui serait habitable, on ne peut pas l'atteindre. Hein? Voilà. Alors, donc, ils arrivent, notre quatuor de naufragés sauvés in extremis arrive sur cette planète accueillie par des robots qui sont très proches des êtres vivants, finalement, dans une organisation sociétale très égalitaire, j'ai l'impression.
Oui.
Bon. Donc, ils sont étonnés, ils découvrent, les robots ne travaillent pas, mais quand même, il y en a qui travaillent, qui font un travail d'entretien.
Oui, alors, à un moment, pendant le courant du voyage, ils ont eu des doutes quand même. Ils ne savaient pas très bien ce qui les attendait, quel allait être leur sort. Est-ce qu'ils allaient être présentés comme les Amérindiens avaient été présentés après la découverte des Amériques aux populations européennes, ou est-ce que...
Oui.
D'autres sorts leur étaient réservés.
Il y avait de quoi être inquiet.
Oui.
Et alors, surprise, c'est un accueil vraiment extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillant. Ah oui. Alors, on va apprendre très vite, parce qu'il faut en passer par là, que font là ces robots ? Pourquoi n'y a-t-il pas les êtres humains, puisqu'ils ont été fabriqués ? Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait. Alors, on était en train de calculer, soit à la page 144, donc à partir de... à partir de « C'est vrai, ces peuples qui ne parlaient pas la même langue », éventuellement, ou plus loin.
L'histoire de notre planète ?
Oui.
L'histoire de notre planète a quelques différences avec la vôtre. Elle est en effet plus ancienne puisque nous avons quelques millénaires d'avance sur le plan industriel et technologique. Et nous avons vécu aussi quelques catastrophes et calamités que votre Terre évitera peut-être. Comme vous, nous avons eu plusieurs périodes géologiques et une préhistoire que les géos, alors les géos, ce sont les êtres biologiques qui ont créé les robots, ont essayé de reconstituer avec les vestiges que vous appelez paléontologiques et qui sont essentiellement représentés par des fossiles ou des objets, dessins, peintures et inscriptions rupestres. Tout au long de cette évolution, plusieurs espèces à l'intelligence développée ont peuplé Itekot. Itekot, c'est le nom de cette planète. Une seule subsiste actuellement, c'est celle des Ostrageos. Je vous en reparlerai. Il y en avait une autre que nous avons bien connue, celle des Géos, dont vous savez qu'elle a disparu, et dans quelles circonstances. Avec l'apparition de l'écriture, il y a environ 10 000 ans, a débuté l'histoire. Cette histoire a été très mouvementée avec des guerres entre les différents peuples. Certains ont fini par se regrouper pour former les premiers États réunis d'Itekot sur notre continent. Puis une guerre a éclaté avec un pays dirigé par un dictateur disposant de la bombe à hydrogène. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a un peu plus de 3500 ans, une guerre nucléaire a ravagé une grande partie de la planète à l'exception des archipels de l'océan Austral et des régions reculées des deux continents où des pacifistes s'étaient retranchés. Dès lors, la planète a été repeuplée sous une seule bannière par les Géos qui avaient établi une constitution abolissant la violence. La planète est redevenue prospère jusqu'à une période de réchauffement extrême qui a bouleversé le climat et les moyens de survie de la population. La suite, vous la connaissez.
Oui, alors justement, c'est vrai que c'est une projection de ce que nous devons, à quoi nous devons faire face, à savoir qu'il y a eu des guerres, et Dieu sait que nous en avons eu un grand nombre, guerres nucléaires, reconstruction, réchauffement malgré tout de la planète, perte de tout ce qui était, pouvait faire vivre l'homme, et en finale, et là aussi on peut se dire, ma foi, on connaît tout ça déjà, épidémie.
Oui.
Ça fait un peu froid dans le dos quand même, hein, parce qu'on se dit, mais et si Henri Reich avait écrit un livre tout à fait prémonitoire, mais qu'un homme averti en vaut deux, alors on est en train quand même de s'en préoccuper. Donc, il y a 3500 ans, c'était un continent très peuplé, avec des villes, des ponts, etc. Et cette guerre nucléaire a tout démoli. Et après, cette... Ils ont reconstruit. Alors, vous parlez aussi d'une chose dont on ne parle pas beaucoup, même actuellement, de la surpopulation. Parce que je pense quand même que les problèmes de vivre est un problème majeur. Que le problème du réchauffement pousse les gens, dans les pays africains en particulier, qui veulent vivre, évidemment, à migrer vers le nord.
Oui. Alors, on peut avoir des inquiétudes, en effet, parce que nous avons déjà beaucoup pollué la Terre. Essentiellement, les pays consommateurs, comme les nôtres, les pays industriels. Mais lorsque les pays émergents, ou l'Afrique, l'Amérique du Sud, le continent indien, les Chinois vont consommer autant que nous, je sais, la Terre ne pourra pas éponger tout ça. Donc,
oui, et comment leur refuser d'être...
Il n'y a pas de raison de refuser la consommation de biens, l'utilisation des moyens de transport. C'est pour ça qu'il y a une urgence absolue.
Bien sûr, et on en parle de plus en plus. Et nos jeunes paraissent quand même très au fait, beaucoup sont très, très au fait de ce qui se passe.
Alors, quand je suis né, peut-être quand vous êtes né, nous étions 2,5 milliards. Nous sommes trois fois plus nombreux.
Ouais.
Donc...
Le problème se pose.
Le problème se pose réellement. Ouais. Nous sommes une espèce envahissante et qui impacte terriblement le milieu dans lequel nous vivons et la Terre. Et est-ce qu'elle peut éponger tous nos déchets?
Ouais. Et tous ces faits cumulés donc, se terminent par une épidémie qui va exterminer la population d'êtres vivants. Et au moment de leurs extinctions, on se rend compte qu'ils avaient quand même, ils étaient très avancés dans le domaine des sciences et des technologies.
Tout à fait. Alors, leur population a rapidement cru parce que ils avaient découvert un certain nombre de phénomènes, notamment concernant le vieillissement.
Oui.
Et la cancérisation. On sait que sur Terre, il y a de nombreuses espèces, certaines comme les insectes vivent quelques jours, nos animaux domestiques vivent une quinzaine d'années, nous avons une espérance de vie de 85-90 ans, c'est bon. Les baleines à bosse vivent
plus de 100 ans.
Voilà, les baobabs qui sont de la même essence biologique vivent des milliers d'années.
Ouais.
Donc, il y a certainement dans les gènes des mécanismes qui expliquent le vieillissement. On sait qu'il y a les télomères sur les chromosomes qui interviennent, enfin, qui sont des témoins du vieillissement des cellules. Et donc, eux ont découvert quels étaient les mécanismes du vieillissement. Ils arrivaient à, ils faisaient du séquençage, ce que nous savons faire pour les virus, et ils arrivaient à réparer Alors, ils faisaient des examens répétés, et ils arrivaient à réparer. De même pour la cancérisation.
Oui, mais alors, dites-moi, ça augmente
la durée de vie,
l'augmentation de la population.
Voilà, c'était un des mécanismes d'augmentation de la population.
Oui. Alors, reste un peuple d'êtres vivants qui subsistent, des ostrageos. Alors, il y a deux espèces dans cette espèce, je dirais. Il y a ceux qui refusent le progrès. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus agressif.
Voilà. Parmi, donc, il y a
les sages.
Voilà, il y a les sages qui, génétiquement, sont peut-être pas très éloignés des autres, mais qui ont une culture qui fait, sur une île, une grande île, qui est une sorte de paradis terrestre, sauf que, bon, quand ils sont malades, il n'y a pas de médecine oui. capable de les sauver.
Mais ils se contentent de ce qu'ils
voilà,
ont pour vivre.
Voilà, ils se contentent. Et... ils ont des échanges entre eux, ils ont des réunions annuelles au cours desquelles ils font des échanges de produits manufacturés ou de poissons. Nos humains découvrent à un moment que ces gens-là sont en train de découvrir la monnaie. Et
ça va en être fini de leur quiétude, non ?
Voilà. Et Moussa...
On ne va pas parler de cette partie.
On va pas parler.
Ça fait partie du dernier tiers de votre ouvrage. Il faut maintenir le suspense. Mais quand même, la question que l'on se pose, pourquoi avoir sauvé ce quatuor d'humains ? Pourquoi ? Que veulent les robots ?
Alors les robots, ils ont découvert autour de leur étoile et de leur planète des planètes susceptibles d'abriter la vie. Ils ont envoyé deux vaisseaux, un vers une planète et l'autre vers la planète Terre. Mais ils n'étaient pas du tout certains. Ils savaient qu'il pouvait y avoir la vie, mais ils n'étaient pas du tout certains. Donc, quand ils sont arrivés en périphérie de la planète Terre, ils ont reçu beaucoup de messages.
Ah oui, d'appels.
On émet en permanence des ondes. Avec leur intelligence extrêmement développée, leur intelligence artificielle, ils ont décodé les codes, ils sont rentrés dans les serveurs informatiques et ils ont récupéré des données.
Oui. Oui, oui.
Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient trouver. Mais leurs outils, leur intelligence leur a dit il y a des endroits où vous pouvez aller pour récupérer des êtres vivants intelligents.
Et... Voilà, on ne dira pas pourquoi ils en ont besoin. Et encore, alors, on peut faire une parenthèse quand même, parler de ces êtres humains. Comment réagissent-ils à tout ça ? C'est un chambardement énorme dans leur vie. Comment sont-ils ? Ils sont quatre, quand
Alors,
même,
ils sont
déjà.
Quatre. Il y en a deux, donc deux migrants.
Il y a deux hommes et deux femmes.
Voilà. Les deux migrants, il y a une érythréenne qui a fui son pays. Elle s'était mariée avec un homme qui a été...
Mort,
oui, mais qui a été enrôlé chez les militaires, et ça se fait beaucoup en Érythrée, on les enrôle sine die. Donc ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sortiront de leur statut de militaire. Et donc ils ont fui leur pays, et ils ont retrouvé Moussa qui avait travaillé chez Kadhafi
en Libye
jusqu'à l'effondrement du régime libyen. Et donc, à ce moment-là, il pouvait aider sa famille africaine, mais à partir du moment où il a plus travaillé en Libye, il a cherché à mieux vivre ailleurs.
Oui,
et il est
surtout
venu.
Que les conditions de vie et de travail ne sont pas terribles.
Et donc, ils se sont retrouvés sur un bateau qui a sombré.
Bon, les deux autres, on a dit pourquoi. Est-ce qu'il y a il y a heureusement qu'ils sont tous les quatre et qu'il y a vraiment une entente fraternelle, je dirais.
Oui. Alors, ils ont des cultures différentes.
Ils ont des croyances
différentes.
Des religions différentes.
De temps en temps, ils se... ils ont des petits conflits, mais ils s'entendent bien. Ils sont bienveillants les uns avec les autres.
Je pense qu'ils doivent être heureux d'être en vie. Vous avez créé des individus qui ont des caractères forts quand même, qui sont positifs.
Oui.
Bon. Alors, le bébé, il y a un bébé qui naît.
C'est la première fois qu'il y a une naissance dans un vaisseau spatial.
Cette femme érythréenne. Alors, quel est le symbole pour vous, évidemment?
Alors, c'est la renaissance, c'est l'espoir. Alors, bon, il fallait aussi occuper le temps et créer des événements dans ce voyage. Donc, cette naissance avait existé. Quand j'ai fait lire le manuscrit, l'auteur de science-fiction m'a dit « Oui, mais cette naissance, c'est un peu trop light. » Alors, j'en ai un peu rajouté, donc...
Ben oui, voilà, il faut.
Bon, ça, c'est plus crédible.
Oui, alors donc, ils découvrent, ils ont un esprit suffisamment ouvert et tolérant pour ne pas critiquer, ils sont étonnés. Heureux certainement d'être quand même avec d'autres humains, tous les quatre sont là. Parce que manque-t-il aux robots, en fait? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils ressentent comme manque?
Alors les robots ils se sentent orphelins de leur créateur. Donc ce qui leur manque, c'est de côtoyer leur créateur et puis un avenir, un espoir. Nous, on peut espérer, certains le font, une vie dans l'au-delà. Eux, ils savent qu'ils n'en auront pas.
Ils n'auront pas d'enfants.
Ouais, non. Alors, les deux groupes, enfin, les migrants sont peut-être, je le dis, mieux préparés à ce changement de vie, à cette expérience extraterrestre, parce qu'on fuit, des conditions intolérables pour eux. Et là, ils se trouvent finalement dans un environnement qui est un peu hostile. Vivre dans une capsule, c'est pas terrible, mais ils se disent finalement c'est quand même mieux que alors que les autres qui partaient
le
en goguette.
Le narrateur, c'est l'homme Léo, qui est médecin.
Théo,
pardon. Et Hélène est spécialiste de.
Est diplômée du MIT, d'astrophysique.
Oui.
Et donc, elle, c'est.
Eux ont
quitté
des vies confortables.
C'est ça. Et elle explique un peu, même le narrateur qui est médecin ne comprend pas très bien les lois de la physique et tout ça, et c'est elle qui leur explique. Et elle, alors, Moussa fait un peu le rôle de Candide quand les robots parlent de concepts compliqués.
Mais en même temps, c'est un sage.
Oui, c'est un sage qui a une...
Alors, évidemment, là, au cours de leur conversation, il y a un rappel des religions. Vous avez dit, ils ont des religions différentes. Ils rappellent les mythes, les légendes des terriens. Donc, ils en discutent un peu. Il y a également à lire la dernière lettre de Théodule, le dernier... Géos, que dit-il, ce Théodule?
Alors,
c'est assez émouvant, d'ailleurs.
Alors, je ne sais plus.
C'est à la page 239. Page 239. Il dit, « Cher président des robots intelligents, je suis Théodule, le dernier président de l'espèce Égéos. Les troubles de santé dont je suis affecté me font penser que je ne survivrai pas longtemps au mal qui m'affaiblit de plus en plus chaque jour. Aussi, je prépare le testament des derniers survivants de notre espèce qui te sera transmis en plusieurs messages échelonnés dans le temps. Toi ou tes prédécesseurs avaient déjà dû prendre connaissance de mon premier message qui te demandait de trouver des moyens de faire revivre notre peuple. » Je ne continue pas. On laisse au lecteur le soin de lire cette lettre qui a son importance.
Oui, tout à fait. C'est le dernier président des Géos, ce peuple intelligent qui avait créé les robots.
Et c'est son testament.
C'est son testament.
Oui.
C'est son testament.
C'est à la fois un roman d'anticipation. Enfin, j'espère trop que ce n'est pas une histoire très prémonitoire.
Non, il ne faut pas l'espérer.
Bon, il y a un roman d'aventure, parce qu'il leur arrive plein d'aventures, en fait. Un roman de découverte et d'ouverture. Évidemment, vous savez à quoi j'ai pensé ? Si ça passe en BD, je mettrais le dessinateur Anki Bilal.
Peut-être, je sais que je ne connais pas.
Anki Bilal, il est remarquable. Une réflexion sur le temps aussi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. On arrive, moi, j'ai essayé de me faire expliquer le temps parcouru dans ce vaisseau spatial et le temps réel qui se sur la Terre. C'est pas évident. D'ailleurs, même un des quatre humains va essayer de calculer, au moment où il est sur Géos, de calculer en quelle année...
On est sur la Terre.
On est sur la Terre. C'est-à-dire que s'il revenait sur Terre, ils ne retrouveraient personne de leur connaissance. Hein, c'est sûr.
C'est ça.
Oui. Et donc, ça, c'est assez troublant, parce que ça, c'est vrai.
Là, c'est le narrateur donc, qui essaie de calculer. Et puis, au petit déjeuner, il explique qu'il a calculé... Le calendrier pour se repérer dans leurs anniversaires et tout ça. Et Moussa lui dit, mais mon pauvre ami, on ne sait même pas quelle heure il est à Bamako.
Oui, voilà, ils sont complètement... Bon, ils ont du répondant quand même. Et votre livre parle aussi justement d'amitié et de tolérance. Parce que bon, on vous a dit que c'était trop gentil. Non, moi, je pense qu'il y a une forme de tolérance qui est bienvenue.
Non, les robots étaient trop gentils.
Oui, ben oui, ils ont
parce que dans les romans, dans les histoires de science-fiction, souvent des robots sont agressifs.
Mais dans 2001, Odyssée de l'espace, il pleure quand on le déconnecte petit à petit. Mm. C'est un passage très émouvant, mais il a été capable quand même d'éjecter un humain.
Mm. Oui.
C'est assez, hein, si vous vous souvenez, c'est un acte assez agressif. Oui. Et votre livre nous interroge aussi sur ce que signifie être un humain.
Oui.
Quand l'intelligence artificielle semble de plus en plus prendre de la place dans notre monde.
Alors les robots posent la question du libre arbitre, qui est un thème qui m'est cher. Mais bon, est-ce que alors bon, Hélène, la chercheuse du MIT, dit à un robot, mais finalement vous décidez de rien, c'est les algorithmes
vous
qui décident.
Vous êtes programmé.
Et il lui dit, mais vous pensez que vous êtes libre? Et donc, il y a une discussion qui s'opère. Bon, il faut la laisser découvrir au lecteur. Mais in fine, le narrateur dit, bon, Hélène croit au libre arbitre. Et moi, je suis assez proche de Moussa et de Saba qui pensent qu'ils ne sont pas les seuls décisionnaires de leur vie et que Dieu intervient, puisqu'il se réfère souvent à Dieu, dans « Dieu nous aidera grâce à Dieu ». Donc, ils se disent, il n'y a pas... Notre libre arbitre est limité.
On n'est pas tout puissant.
Alors après, il y a une discussion sur où commence la liberté. Alors bon, Henri Laborie dit « La liberté commence où finit la connaissance ». Et donc, il y a un des robots qui explique ce thème-là, sans le reprendre, mais qui...
Il le développe.
On est libre. Souvent, vous rencontrez, parce que vous avez la même culture, vous rencontrez les gens que vous connaissez au même endroit, parce que vos algorithmes biologiques vous conduisent au même endroit.
Oui, oui.
Et donc, où est la liberté dans ces cas-là? Si vous voulez visiter...
Donc, essayez d'élargir le plus possible le champ des connaissances, des relations, des apprentissages.
Oui, alors plus on a de connaissances, plus on peut se sentir libre. Mais in fine, plus on converge vers la bonne solution.
Rien n'est simple. Voilà un sujet de discussion. Pour terminer, je vais lire une note de l'auteur, vous, Henri Reich. Nul ne sait ce qui se passe dans les planètes habitables, dans celles qui ressemblent à la Terre par la présence d'eau liquide, d'une atmosphère et de climats compatibles avec la vie. Sont-elles habitées? Nul ne sait si les mécanismes d'organisation de la matière en œuvre depuis le Big Bang conduisent inévitablement à la vie lorsque les conditions de son apparition sont réunies ou si au contraire, les chances de son éclosion sont infimes. J'ai pris le parti de la première hypothèse, celle où les lois universelles, celles de la gravité, des forces électromagnétiques, des forces d'interaction au sein des atomes, conduisent à l'émergence de la vie et à celle des mécanismes de la reproduction. J'ai choisi aussi de décrire une planète au sein de laquelle la vie d'êtres intelligents, capables de raconter leur histoire, est apparue avec quelques millénaires d'avance sur ce qui s'est déroulé sur la Terre. Ceci m'a permis de décrire un monde fictif où la profondeur de l'histoire et l'enchaînement des événements constituent l'objet de réflexion sur ce qui est arrivé sur Terre et ce qui pourrait se produire à l'avenir. Moi, je termine en disant « si nous n'y prenons pas garde ».
Oui, c'est un danger, c'est un danger réel.
C'est un danger. En tout cas, oui, vous avez...
Non, c'est un danger et espérons que... Nous serons assez sages et nos dirigeants seront assez sages pour éviter des catastrophes telles que celles qui ont pu être décrites
Sauf
dans ce
que
roman.
Nous ne sommes pas réunis en une seule communauté, mais il y en a de nombreuses.
C'est ça
le problème. En tout cas, soyons optimistes, ayons confiance et lisons le livre d'Henri Reche, « Notre monde vient d'en trouver un autre », paru aux éditions Librinova, c'est ça?
Oui.
Voilà. En tout cas, un grand merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci infiniment. Au revoir.